à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 25 mai 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Burundi, le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur à la présidentielle. Au Burkina Faso, au moins 2 gendarmes ont été tués hier lors d'une attaque à Faramana. En Libye, des centaines de mercenaires russes combattant aux côtés du maréchal Haftar ont été évacués du front de Tripoli. Ce 25 mai est la journée de l'Afrique. Et c'est également Memorial Day ici aux États-Unis où l'on rend hommage aux Américains et Américaines morts au combat dans le monde. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 68,72% des voix, selon les chiffres de la commission électorale. Le point avec Nani Talani.
Le général Ndayishimiye, 52 ans, qui succède ainsi au président Pierre Nkurunziza, devance très largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du CNL, le Conseil national pour la liberté, qui réunit 24,19% des voix. Celui-ci avait déjà par avance qualifié ses résultats de fantaisistes. Le taux de participation à la présidentielle, qui se déroulait en même temps que les législatives et les communales, est de 87,7%. Même si ces élections, maintenues malgré l'épidémie de nouveau coronavirus, se sont globalement déroulées dans le calme, le CNL dénonce depuis mercredi des fraudes massives et les pressions exercées sur ses assesseurs, dont certains ont été arrêtés. Ndayishimiye sera investi en août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, pour 7 ans. Il a promis de faire du rétablissement économique du pays sa priorité. Au pouvoir depuis 2005, M. Nkurunziza avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat et avait adoubé le général Ndayishimiye comme son héritier.
Reprise à Kinshasa en RDC du procès de Vital Kamerhe et du Libanais Jamal Sami, PDG de l'entreprise Samibo, pour détournement de fonds présumés. Monsieur Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a demandé sa remise en liberté provisoire de la prison de Makala, où il est détenu depuis le 8 avril. Il est accusé du détournement de 50 millions de dollars de fonds publics alloués à la construction de logements sociaux. Clamant son innocence, M. Kamerhe affirme que le contrat avait été signé avant sa nomination. Jamal Sami clame également son innocence. La prochaine audience a été fixée au 3 juin. Au Burkina Faso, au moins 2 gendarmes ont été tués dimanche lors d'une attaque à Faramana, ville frontalière au Mali. Des individus lourdement armés ont attaqué le poste de gendarmerie de Faramana dans le Houé aux environs de 22 heures. 2 gendarmes dont le commandant de brigade ont trouvé la mort au cours de cette attaque, a déclaré une source de sécurité, ajoutant qu'un autre gendarme est toujours porté disparu. 8 membres de l'équipage d'un porte-conteneur kidnappé par des pirates au large du Bénin le 19 avril ont été libérés samedi et sont actuellement en observation médicale à Lagos, selon la marine nigériane. Ils vont être interrogés plus tard car ils sont en observation et l'un d'eux reçoit un traitement pour malnutrition, précise l'amiral Oladele Dadji, chargé de l'opération de sauvetage. L'information a été confirmée par Transeste, la société allemande gestionnaire de Tommy Richter, navire appartenant à une société singapourienne. Combattant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar ont été évacués du front de Tripoli et se trouvent à Bani Walid, a indiqué le gouvernement d'Union nationale. 7 avions militaires ont rejoint Bani Walid dimanche avec des munitions et des équipements militaires et vont repartir avec les mercenaires du groupe Wagner, ajoute le communiqué des forces du GNA, selon lesquels environ 1500 mercenaires se trouveraient actuellement dans cette ville. Les États-Unis ont demandé à la Banque africaine de développement de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président Akin Wumi Adesina. Dans une lettre, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, fait part de ses sérieuses réserves sur la décision de la BAD de blanchir son président. Sur recommandation de son comité d'éthique, la banque avait totalement disculpé M. Adesina de multiples accusations telles qu'enrichissement personnel et favoritisme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait plus de 345 000 morts dans le monde, avec plus de 5 430 000 cas diagnostiqués. Malgré sa progression, le déconfinement se poursuit. Le point sur les dernières évolutions avec Eric Manirakiza.
En Espagne, madrilènes et barcelonais retrouvent leurs parcs et terrasses. Les habitants des autres régions moins touchées par la pandémie peuvent aussi retourner sur les plages. Les terrasses ont aussi rouvert en Grèce et en Allemagne. Les autorités allemandes prévoient toutefois de prolonger jusqu'au 5 juillet au moins les règles de distanciation sociale. L'Italie, quant à elle, rouvre ses piscines et salles de sport. En Ukraine, le métro de Kiev, fermé depuis presque 10 semaines, reprend ses activités. Le Royaume-Uni prévoit d'entamer son déconfinement le 1er juin avec une réouverture partielle des écoles. Ici aux États-Unis, les drapeaux ont été mis en berne pour 3 jours. Le président Donald Trump a interdit dimanche l'entrée aux voyageurs en provenance du Brésil. Le déconfinement se poursuit sur le territoire américain. Les New-Yorkais ont ainsi pu redécouvrir la plage dimanche. L'Iran rouvre les principaux sanctuaires chiites du pays. Au Japon, l'état d'urgence est levé, notamment à Tokyo. En Inde, les vols intérieurs ont repris lundi. Parmi les conditions posées pour pouvoir embarquer, se soumettre à une prise de température et disposer de l'application gouvernementale de traçage.
Par ailleurs, 15 000 Rohingyas sont placés en quarantaine dans les camps de réfugiés du Bangladesh, où 25 cas de coronavirus ont été détectés selon les autorités locales. Les épidémiologistes redoutent une flambée de Covid-19 dans ces camps du sud du pays. Près d'un million de membres de cette minorité musulmane ayant fui les persécutions en Birmanie voisine y vivent dans la promiscuité. En Afghanistan, le cessez-le-feu surprise de 3 jours décrété samedi par les talibans à l'occasion de l'Aïd el-Fitr est toujours respecté ce lundi. Dans le même temps, le président Ashraf Ghani s'est engagé à faire libérer 2000 prisonniers talibans. Jacques Aristide nous en dit plus.
Les talibans, qui multiplient depuis des semaines les assauts meurtriers contre les forces afghanes, ont surpris ce samedi en décrétant unilatéralement un arrêt des combats pour que leurs concitoyens puissent célébrer l'Aïd, la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. Ce lundi, aucune violation du cessez-le-feu n'a été rapportée. C'était la première fois que les talibans appelaient d'eux-mêmes à poser les armes depuis qu'une coalition internationale menée par les États-Unis les a chassés du pouvoir fin 2001. Le président Ashraf Ghani a immédiatement accepté cette offre en lançant une procédure de libération de moins 2000 prisonniers talibans. Le président demande aux insurgés de continuer aussi à libérer les militaires afghans qu'ils détiennent. Ces libérations réciproques de prisonniers, jusqu'à 5000 talibans contre 1000 membres des forces afghanes, sont prévues par l'accord de Doha paraphé entre Washington et les talibans, mais non ratifié par Kaboul. L'accord évoque également le retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, à condition que les insurgés respectent des engagements en matière de sécurité et entament des pourparlers avec les autorités afghanes sur l'avenir du pays.
Les États-Unis observent ce 25 mai le Memorial Day, un jour férié qui rend hommage aux Américains et Américaines morts au front dans diverses guerres. Le point avec Blanche Sanou.
Le président Donald Trump a évoqué à cette occasion la crise du nouveau coronavirus qui frappe durement le pays. Cette année, le Memorial Day tombe pendant une semaine où le nombre de morts Covid-19 aux États-Unis avoisine 100 000, selon les chiffres de l'agence Reuters. Habituellement, c'est un moment où les cimetières à travers le pays se remplissent de drapeaux et de cérémonies en souvenir des soldats morts au front et en hommage aux vétérans. Les 50 États américains ont assoupli dans une certaine mesure les restrictions relatives au nouveau coronavirus. Dans certains États comme l'Illinois et New York, les restaurants et les salons de coiffure sont toujours fermés. Mais dans de nombreux États du Sud, la plupart des entreprises ont rouvert. La semaine dernière, 11 États ont signalé un nombre record de nouveaux cas de COVID-19. Pour l'heure, on ignore encore si les nouveaux cas sont dus à de nouveaux tests ou s'il s'agit d'une deuxième vague d'infection dans le pays. Pour rappel, le week-end du Memorial Day marque aussi le début de l'été ici aux États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En Tanzanie, les conteneurs de concentré d'or appartenant à Twiga Manerols, la filiale de Barrick, sont autorisés à être exportés 4 mois après que le gouvernement a levé une interdiction d'exportation imposée suite à un différend fiscal. D'après le PDG de Barrick, Marc Bristow, cet or vaut entre 260 et 280 millions de dollars. En Afrique du Sud, la compagnie minière AngloGold Ashanti veut suspendre les opérations de sa plus grande mine après que plus d'une centaine de cas de coronavirus y ont été détectés. Les opérations souterraines sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, car il n'est pas envisageable de tester tous les employés. La mine Poneng, dans la province de Gauteng, a repris ses activités à 50% début mai, après avoir été fermée dans le cadre du confinement. Elle emploie près d'un demi-million de personnes dans le pays. Pour terminer, les États-Unis demandent à la Banque africaine de développement de lancer une enquête extérieure indépendante sur les accusations de prévarication contre son président Akinwumi Adesina, vu l'étendue, la gravité et la précision des allégations portées contre lui. Faisant part de ses sérieuses réserves sur la décision de la BAD de blanchir son président de toutes les accusations, Washington pense qu'il est nécessaire que M. Adesina bénéficie du soutien complet et de la confiance totale des actionnaires, puisqu'il est le seul candidat au leadership de la banque pour les 5 prochaines années.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La liste des pays africains qui arrêtent définitivement leur championnat s'allonge. Le Rwanda, l'Ouganda, la Gambie et le Soudan du Sud ont imité certains qui l'avaient fait auparavant. Suspendu depuis le mois de mars, le Rwanda a arrêté son championnat et a décerné le titre de champion au club de l'APR en tête avant l'interruption. Le championnat ougandais, qui avait disputé plus de 80% de ses journées, a sacré le Viper Sporting Club. La Gambie a décrété une saison blanche et désigné le Real comme vainqueur. Le club de Banjul représentera le pays en Ligue des champions, alors que Gambia Army Forces, deuxième au classement, jouera la Coupe CAF. De son côté, le Soudan du Sud, qui a choisi d'opter pour une saison blanche, n'a désigné ni champion ni relégué et n'a désigné aucune équipe pour jouer en Ligue des champions. En revanche, Al Rabita de Djouba, vainqueur de la Coupe nationale, jouera la Coupe CAF. Au Sénégal, la Fédération de football a indiqué que les clubs qui s'entêteraient à ne pas prendre part aux play-offs et aux play-down, comme l'a arrêté le comité d'urgence, seront sanctionnés. Cette nouvelle formule adoptée pour boucler le championnat commencera en novembre prochain. En quoi consiste-t-elle? Le président de la fédération explique. Augustin Senghor.
La décision finale qui a été arrêtée après concertation avec les acteurs à travers les structures intermédiaires, mais aussi l'autorité de tutelle. Nous avons choisi de repousser la reprise du championnat au mois de novembre, avec cette particularité que pour pouvoir éviter de trop impacter la saison 2020-2021 qui suivrait, il était plus indiqué de changer de formule pour terminer les phases retour sous forme de play-off et de play-down, de sorte que c'est les équipes qui sont dans la première partie du championnat qui évolueraient au play-off pour jouer le titre. Les autres seraient affectés au play-down pour jouer le maintien.
Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, au micro d'Amdine Sy. Ici aux États-Unis, les choses se précisent pour la reprise de la NBA. La Ligue nord-américaine de basketball est en pourparlers avec The Walt Disney Company au sujet du redémarrage de sa saison fin juillet à Disney World en Floride. Le plan potentiel verrait la Ligue organiser des matchs sur un seul site, le complexe Wide World of Sport d'Orlando, qui dispose de 3 plateaux et d'hôtels. Notre priorité reste la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Et nous travaillons avec des experts en santé publique et des représentants du gouvernement sur un ensemble complet de lignes directrices pour garantir la mise en place de protocoles médicaux et de protection appropriée, a déclaré Mike Bass, porte-parole de la NBA. Il reste encore 82 matchs pour boucler cette saison NBA.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Victoire d'Évariste Ndayishimiye ce lundi à la présidentielle du Burundi. Ce général, candidat du parti au pouvoir, va donc succéder à Pierre Nkurunziza. Il l'a emporté avec 68,72% des voix devant l'opposant Agathon Rwasa, qui a obtenu 24,19% selon les résultats de la commission électorale. Ces élections étaient très suivies par de nombreux Burundais qui ont dû fuir le pays en raison de la crise sécuritaire. Pour une réaction, Bagasikura a joint Immaculée Unja, présidente du mouvement des femmes à Kigali.
Pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous avons suivi de près la programmation des résultats des élections de 2020. Pour nous, il n'y a pas de surprise, car tout le processus électoral de 2020 a été organisé par le gouvernement et le parti CNDD-FDD dans un contexte caractérisé par beaucoup d'irrégularités et de violations flagrantes du code électoral. Tous les moyens ont été mis en place pour que le CNDD-FDD gagne ces élections, que ce soit au niveau des commissions électorales communales ou provinciales, que ce soit pour la nomination ou la désignation de tous les mandataires sur les bureaux de vote. Il n'y a donc pas de surprise. Le CNDD-FDD devrait gagner si on voit tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été mis en œuvre, mais il s'agit pour nous si ces résultats sont confirmés, de la perpétuation de l'ancien système que nous déplorons tous, la gouvernance.
Et est-ce que vous pensez qu'il pourra apporter des changements à la situation du Burundi?
Il a fait beaucoup de promesses de réalisation et de changements, mais d'un autre côté, nous avons noté une grande contradiction dans ses discours, dans la mesure où il a dit clairement qu'il va suivre, s'il est élu, les programmes et les projets du président sortant, Pierre Nkurunziza. Et nous savons ce qui s'est passé depuis 2015. Le président Nkurunziza a brigué un troisième mandat de beaucoup de malheurs pour les Burundais et le Burundi, dans la mesure où ce mandat a généré beaucoup de réfugiés dans les différents pays voisins, et aussi où il y a un mandat au cours de laquelle il y a eu beaucoup de commissions de crimes de droit international, comme des disparitions, des assassinats, des emprisonnements, des viols des femmes. Et sur ce point, s'il est confirmé comme le successeur de président Nkurunziza, nous assisterons à la perpétuation de cet ancien système qui a commis tous ces crimes et qui a poussé beaucoup de Burundais en exil.
Est-ce que vous avez une explication à la défaite d'Agathon Rwasa? Pourquoi il n'a pas pu convaincre les Burundais?
Il s'agit d'un processus électoral entaché de beaucoup d'irrégularités, illustré par la multiplication des arrestations, menaces, emprisonnements, assassinats et autres crimes observés contre les membres du CNL. Il faut aussi souligner l'absence d'observateurs internationaux et des médias libres et indépendants sur le terrain.
Immaculée Unja, présidente du mouvement des femmes à Kigali.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore s'est exprimé ce week-end sur les 12 civils retrouvés morts à la gendarmerie de Tanoualbougou dans l'est du pays. Il a promis que toute la lumière sera faite sur leur mort, qu'il a qualifié de situation inacceptable. Un dossier de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Ils ont été retrouvés morts dans leur cellule le 12 mai dernier, selon le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Fadangourma. Eux, ce sont les villageois arrêtés avec 13 autres pour suspicion de terrorisme par les forces de défense et de sécurité à Tanoualbougou. Le président du Faso a tenu vendredi un conseil de défense.
La mort de ces 12 personnes nous affligent de façon fondamentale.
Roch Kabore.
Ça nous interpelle sur deux points.
Au-delà du fait d'abord que ce sont des questions qui sont dans une procédure judiciaire, puisque nous avons demandé une enquête judiciaire et une enquête administrative qui sont en cours et dont nous espérons avoir les résultats sur la base desquels les décisions que nous devons prendre, nous les prendrons, je dirais, sans état d'âme. Nous devons éviter deux choses au Burkina Faso, la stigmatisation, le repli identitaire. C'est deux questions que nous devons savoir résoudre avec tout le tact et toute l'intelligence nécessaire pour le vivre ensemble. Nous devons éviter de mettre chaque fois de l'huile sur le feu quand il ne faut pas.
L'opposition pense que ce n'est pas la première fois qu'il y a de tels actes. Aziz Dabo, secrétaire exécutif adjoint de la NAFA, Nouvelle Alliance du Faso, parti d'opposition.
Nous avons toujours en mémoire les événements malheureux de Yirgu qui, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de dénouement au niveau de la justice. J'ose croire que les enquêtes diligentées aboutiront à des résultats concluants afin que les responsabilités soient situées et que plus jamais ce type d'action ne se produise au nom de l'union et de la cohésion nationale dans notre pays, le Burkina Faso.
Nous souhaitons que le président comprenne qu'il faut cette fois-ci joindre l'acte à la parole.
Daouda Diallo, porte-parole du CISC, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
Il faut prendre des mesures fortes pour sévir cette fois-ci, parce que Taolobougou, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Et deuxièmement, il faut que certains éléments des forces de défense et de sécurité qui sont impliqués dans certains crimes de sang, dans certains crimes de masse et exécution extrajudiciaire, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a un commandant en chef, c'est le président du Faso. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans un état de droit et qu'on ne doit pas tuer pour tuer. Il faut que le président Roch Kabore fasse passer ce message également auprès de certains éléments qui ont un comportement indigne de la République, parce que son pouvoir ne doit pas être jalonné par des crimes de sang.
Tous font aujourd'hui la pression sur le gouvernement burkinabé à faire la lumière dans ce dossier. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ce 25 mai, l'Afrique célèbre sa journée instaurée par l'Union africaine pour commémorer la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine. Ici aux États-Unis, la communauté africaine de New York organise divers programmes à cette occasion. Eddie Isango a joint Kadi Diaby, présidente de l'ONG Mother Aissatou Keita Mako.
Cette journée est la commémoration de la journée africaine qui a été mise à jour depuis 1963 à Addis Abeba. Et c'est une célébration internationale, ça a une signification internationale en termes d'unité, en termes d'amener tous les Africains à se mettre ensemble pour célébrer ce jour-là. Et il faut dire que ici à New York, cette célébration a été marquée, a été officiellement mise en place depuis 2007. Où en mai, le 25 mai 2007, où tous les législateurs et les Africains, descendants et les Caraïbiens se sont réunis à Albany et ont décidé, sous la tutelle de Madame Anna Myriam Omala, qui était à ce moment le senior advisor de la présidente de l'Union africaine actuellement, Mohamed, qui ont décidé de célébrer l'Africa Day. Et cette année, ça sera fêté ici à New York. Et
qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont les activités que vous avez prévues?
On aura des panels, on aura des discussions, on aura aussi le côté culturel, des poèmes. En fait, ce sera une journée de fête, de célébration, mais en même temps, d'information et de sensibilisation. Une journée culturelle, montrer notre culture, mais en même temps sensibiliser et en même temps montrer face à tout ce qui se passe face à la pandémie. Face à tout ce qui se passe, nous allons essayer aussi d'adresser certaines issues.
Quel est l'impact que vous pensez amener dans la communauté africaine ici aux États-Unis, mais aussi ailleurs?
Au niveau de l'unité d'abord, parce que tous les Africains et les descendants africains se reconnaissent dans cette journée qui est célébrée, comme je vous l'ai dit, de façon internationale. Donc il y aura l'unité, le sens de la responsabilité. Contrairement aux autres journées, ça se célèbre aujourd'hui de façon virtuelle sur Facebook Live. Donc on demande à tout le monde d'être connecté. Comme vous le savez, j'ai parlé du sens de la réalisation. Je veux parler de l'impact économique aussi, parce que c'est une plateforme aussi qui permet de voir notre potentiel Et je vais parler aussi de leadership. Vous aurez des leaders qui vont intervenir dans différents domaines, dans l'éducation, dans le civic engagement, dans différents domaines qui vont donner leur point de vue. Mais aussi, c'est une plateforme qui nous donne une opportunité de montrer que nous, aujourd'hui, avec cette pandémie, nous sommes touchés et l'Afrique a le plus besoin d'infrastructures. C'est un cri d'alerte aussi pour dire que après cette pandémie, le pays, le continent qui souffrira le plus, ça sera l'Afrique. Et non seulement ça, nous, les Africains de la diaspora, on va le plus en pâtir. Donc nous demandons aussi des infrastructures. Nous demandons aussi que nos doléances soient prises en compte dans ce processus-là.
Kadi Diaby, présidente de MACO, l'organisation Mother Aissatou Keïta, elle était jointe à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Plus de 5,3 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde, avec plus de 335 000 décès dus à cette infection. Les États-Unis enregistrent le nombre de cas le plus élevé. Un chapitre sombre pour le pays qui néanmoins commence à rouvrir les entreprises et les églises dans le but de ramener l'économie et la vie quotidienne à la normale. Un reportage de Kane Farabout, récit de Lionel Gaïma.
À la faveur du long week-end de Memorial Day, de nombreux Américains ont pris d'assaut les plages après un assouplissement des restrictions de verrouillage dans la plupart des États du pays. La réponse du groupe de riposte au nouveau coronavirus de la Maison-Blanche, le docteur Deborah Birx a averti néanmoins qu'il ne s'agit pas d'un week-end américain normal.
Vous ne savez pas qui est infecté. Nous voulons vraiment insister que la distanciation physique est absolument nécessaire. Si vous ne pouvez pas prendre de distance physique à l'extérieur, vous devez porter un masque.
Le nombre de décès dus au COVID-19 aux États-Unis avoisine les 100 000. Le quotidien New York Times a marqué cette triste étape en publiant la liste de noms de nombreuses victimes de chaque État du début de la crise jusqu'à ce jour. Cette semaine, le président Donald Trump a suggéré aux différents États de mettre la réouverture des édifices religieux.
Aujourd'hui, j'identifie les lieux de culte, les églises, les synagogues et les mosquées comme des lieux essentiels qui fournissent des services vitaux.
Essential services.
Une initiative qui est la bienvenue, selon le pasteur Dan Carroll de l'église communautaire Water of Life à Fontana, en Californie.
Nous ne voulions pas enfreindre la loi, mais nous sommes prêts à aller de l'avant, peu importe ce que le président Trump a dit ou le gouverneur Newsom, parce que nous avions l'impression d'avoir été très patients, très diligents et nous estimions qu'il fallait rouvrir et prendre soin de notre communauté.
Le président Trump se dit déterminé.
Les gouverneurs devront prendre la bonne décision et permettre à ces lieux de foi très importants et essentiels d'ouvrir dès maintenant pour ce week-end. S'ils ne le font pas, je passerai outre les gouverneurs.
Les dirigeants de certains groupes religieux qui ont tenté de fournir des services physiques ont été exposés aux personnes infectées par le nouveau coronavirus, comme cela a été le cas dans un centre du nord de la Californie. Dr. Brooks, du groupe de la riposte au coronavirus.
Il est préférable de célébrer à l'extérieur et maintenir une distance sociale afin d'éviter les contacts physiques. Je sais que c'est difficile. Nous avons tous opéré des changements de comportement difficiles et cela doit continuer.
Alors que de plus en plus d'États commencent à rouvrir les restaurants et les entreprises pour tenter de rattraper les pertes économiques dues au nouveau coronavirus, le Dr. Birx dit que les États-Unis se préparent à une deuxième vague du virus cette année.
Nous nous préparons à cette éventualité à la fois dans les centres de santé, même au niveau des dispositifs de protection, les ventilateurs, les stocks. Nous nous assurons de pousser plus loin les développements thérapeutiques et les vaccins afin que nous puissions être prêts si le virus réapparaît encore de manière significative.
Si le virus réapparaît, le président Donald Trump a déclaré qu'il n'entend pas appliquer les mêmes restrictions ou fermer à nouveau l'économie américaine, malgré les risques de propagation du virus.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Avec vous, Henri Francisque, 18.